Découverte, initiative écologique, parlons nature, une émission de résonance sonore.
Explique-moi ce que tu fais, un petit beau, là.
J'ai une pub pour laquelle je dois décorer un salon et une cuisine, mais dans trois ambiances différentes. On a une ambiance de Noël, ce qui est tout à fait logique de tourner ça en plein milieu d'août. J'ai un couple de personnes quinquagénaires dans la vie de tous les jours. Et j'ai un couple de jeunes adultes, donc 25-30 ans. Et eux, le thème, c'est un peu Mission Impossible. Donc voilà, en gros, il faut que je donne trois ambiances avec très peu de déco, puisqu'on a un jour de tournage. Il faut que ce soit des trucs qui puissent s'enlever, se mettre rapidement. Et donc là, dans le stock, ben, je sais qu'on a de la déco de Noël, qui est là-haut. Ça, c'est déco de Noël. Ouais, c'est des bouts de sapin, on a des guirlandes, on a des boules ici, là aussi. Donc je vais prendre tout ça en photo, je vais l'envoyer ensuite à la Réal pour qu'elle le valide. Ou pas, déjà, j'aurai des trucs qu'on va pouvoir faire partir d'ici, ce sera beaucoup plus simple. Et après, nous, on fait un forfait de location en fonction de ce qu'on prend. Quoi.
Je m'appelle Baptiste, je suis décorateur à Toulouse depuis 5 ans. On a fondé Deuxième Clap avec Thibaut, que j'ai rencontré à l'ENSAV il y a 4 ans, à peu près. Et depuis, on est à Toulouse, décorateur, on bosse pas mal tous les deux ensemble.
Bonjour, moi c'est Thibaut. Je suis décorateur à Toulouse depuis, pareil, 5-6 ans. J'aime peut-être un peu plus de la scénographie à la base. Mais sinon, on bosse exactement dans la même veine. On a plus ou moins les mêmes postes. On bosse en dehors de l'asso beaucoup ensemble aussi, puisque on est tous les deux du même milieu et qu'on se connaît bien. On essaie toujours de se retrouver sur les mêmes projets quand il y en a un qui a un boulot, l'autre se retrouve aussi en premier assistant ou en accessoiriste, et inversement, si c'est l'autre qui est pris, le deuxième arrive aussi en général avec. Une espèce de package, tu vois, de déco.
On propose de tout simplement réduire les déchets du cinéma à Toulouse, lié au cinéma à Toulouse et dans sa région. Soit une boîte de production arrive en mode « on va tourner, du coup on vient chez vous, on loue du matos » et qu'on, comme ça, on le loue juste, on l'emprunte et on le ramène, et voilà, comme ça, eux, ils n'ont rien à gérer à la fin. Nous, on a juste nos stocks qui tournent, le matériel qui est réemployé, et ça nous fait de l'entrée d'argent de location. On fait adhérer aussi les nouvelles structures qui arrivent en fonction de leur... Si c'est des particuliers qui font des courts-métrages, si c'est des petites assos ou si c'est des boîtes de prod, on échelonne un peu. Pour l'instant, on expérimente un peu ça, ça marche à peu près. Et ensuite, voilà, donc soit ça, soit il y a des boîtes de prod qui ont courant après leur tournage que nous, on existe, et nous, on récupère en fait leur décor et accessoires dont ils se serviraient plus. Enfin, voilà.
Des blabloum.
Oui, la déco de Noël, on en a pas mal là-bas.
Ben ouais, sauf qu'elle fait un peu vieillotte. Et alors là, t'imagines aller chercher maintenant des trucs de déco de Noël ?
Je pense que ça se fait, mais oui, c'est chiant.
On en a pas mal, surtout des sapins en fait.
C'est très simple, alors que je randonnais au pied du Mont Fuji. Véridique. J'étais avec des potes et au moment où tu randonnes et tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer en France, et j'avais envoyé un message à Thibaut, du coup nous c'était l'après-midi en France, il était 3h du matin, et je lui avais dit hey, ça serait cool de monter une sorte de ressourcerie du cinéma comme il en existe à Paris ou à Marseille, et de monter un truc un peu à Toulouse parce que l'idée c'était que pour moi en tout cas, de rester à Toulouse et d'essayer de créer des choses autour du cinéma à Toulouse, que Toulouse devienne un peu un endroit intéressant, et de pas monter à Paris, de décentraliser quoi. Et du coup j'avais envoyé ce message en disant bon, ça serait chouette, mais c'est une idée comme ça que j'ai eue en réfléchissant sur la vie. Sauf que je revenais juste 2 ou 3 semaines après en France, et quand je suis revenu en France, j'ai vu Thibaut, et tout Toulouse était au courant de cette idée.
C'est ça qui a fait que ça a marché, enfin c'est exactement pour ça que ça marche. Bah oui, il y a eu ce point de départ là, et qui est trop chouette, et l'initiative vient je pense quand même principalement à la base de toi, et une fois qu'on avait ça en tête, on pouvait plus la lâcher cette idée quoi. Et après il y a eu des évidences très terre à terre de travail, où moi le déclic ultime ça a été, je pense c'était à peu près à cette même période, genre 1 ou 2 semaines plus tard, ou 1 mois plus tard, je me retrouve à bosser sur une pub, on a dû acheter un meuble télé en neuf, parce que les réals, ils avaient déjà l'idée que, ah voilà, on veut cette table Ikea en neuf, parce qu'il y a une séquence de télé, machin. Donc oui, ok, d'accord, on te file de l'argent, je suis passé à Ikea, j'ai acheté le meuble télé, je reviens dans le studio, je le monte, ça tourne pendant 2-3 jours, on utilise ce meuble télé, et à la fin du projet, vu que c'était une boîte de production parisienne, ils s'en fichent en fait de ce qui se passe, de ce qu'ils ont acheté en déco, et donc c'est parti à la benne. Vu qu'ils te payent pas pour faire le retour à Ikea, vu qu'ils te payent pas pour potentiellement prendre le temps d'aller le stocker ou quoi que ce soit, voilà, ça part à la benne, c'est systématique assez souvent, quoi. Qu'est-ce qui se passe pas 2 semaines plus tard? On m'appelle pour une autre pub, pour un autre studio. Ouais, salut Thibaut. Alors du coup, à un moment, on a une séquence télé. T'inquiète pas, te fais pas chier. On a déjà la référence du meuble Ikea qu'on veut. Je suis allé racheter en neuf, 2 fois de suite à 2 semaines de différence, le même putain de meuble chez Ikea. Et là, ça a été pour moi aussi le truc en mode... Non, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est indécent. On peut pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres et qu'en plus derrière... Ce genre de boîte de production se plaignent de ne pas avoir d'assez d'argent et ne nous paye pas assez et estime que machin. Et donc déjà, il y a ça à mettre en place d'un point de vue très économique. Et ensuite, écologiquement et politiquement parlant, c'est indécent, quoi. Enfin, c'est pas OK, quoi. Ce fonctionnement-là, il n'est pas OK. Le son de ce lieu, c'est de toute façon, c'est le son de Baptiste et moi, c'est FIP. Dès qu'on bosse ensemble, dès qu'on commence à bosser, on met FIP en fond. Même quand il y en a un qui passe un appel et que du coup, il doit éteindre son ordi, c'est l'autre qui reprend FIP. Et Baptiste a souvent ce truc de se dire, quand on commence vraiment, quand on est sur des trucs lourds, c'est des demandes de subventions et tout machin, d'un coup il s'arrête de bosser, il fait « je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas et tout ?»« Bah je bosse pas moi s'il y a pas FIP. » Alors, depuis donc mars 2025, on est au Timbre, qui est donc un genre de tiers-lieu, je sais pas si on peut dire vraiment ça, mais un lieu en transition en tout cas de l'agence intercalaire. Donc on est sur un bail précaire à durée à la base prévue de 3 ans. Donc à la base, quand on est arrivé en mars, c'était censé être dans 3 ans plus tard. Là, pour le moment, c'est un peu plus flou et potentiellement, on est sur un peu plus longtemps. Donc c'est l'ancienne poste et les anciens locaux de postaux de la poste à Barrière de Paris, à Toulouse, au 169 avenue des Minimes, entrée piéton, 84 boulevard Silvio Trentin, entrée
Nous, parking. Dans ce lieu-là, on est sur 2 lots de 100 mètres carrés en sous-sol, avec quand même accès avec une rampe et des monte-charges, ce qui peut nous permettre de quand même transporter de gros volumes. On a eu vent de cette initiative-là de la part de l'agence intercalaire, en tout cas de son rachat du lieu, ou de sa reprise du lieu, via Collectif Cartel, qui est un collectif de scénographes que nous avons rencontrés via justement le projet La Navette. En fait, ils font partie du projet La Navette, donc ce projet de mutualisation d'espace, de matériel et de force humaine et de force vive et de matière grise. Et donc en fait, ils sont arrivés ils ont appris l'existence du Timbre, ils ont préempté sur un des lots là-haut, ils ont pris des bureaux, et ils savaient que nous, on était en recherche de lieux de stockage, et donc ils nous ont contactés en disant, voilà, il y a l'agence intercalaire qui a tant et tant de mètres carrés disponibles, venez voir, venez visiter. Et donc on est, nous, installés dans 200 mètres carrés, ici, au Timbre.
Tu trouves comment, toi, ce lieu? La première fois que tu l'as vu, c'était quoi ton impression?
J'étais content parce que c'était quelque chose qu'on cherchait depuis un an au moins. Et du coup, c'était chouette de voir qu'il y avait un truc aussi grand, si proche de chez nous, et qui avait l'air un peu accessible au niveau de l'argent. Donc j'ai trouvé ça chouette, ouais. Après, ça a ses avantages d'être en sous-sol. Niveau météo, c'est super. C'est un peu un Emmaüs en mieux normalement. C'est un peu ce que nous disent les gens quand ils arrivent. Qu'on a un peu des trucs un petit peu absurdes, des têtes de sangliers, des. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que, en plus, nous, comme on commence, on prend un peu. L'idée, c'est quand même de prendre des trucs qui viennent surtout du tournage. Et nous, ce qui est là pour l'instant, comme on commence tout juste, on prend des trucs qui viennent de partout. C'est des potes qui déménagent, qui se séparent de choses. C'est des gens qui viennent nous donner des choses qui pourraient être intéressantes. Ou genre, leurs grands-parents qui décèdent et ils ont des trucs. Donc, c'est assez chouette de voir. Que ça se fait de façon un peu, un peu solidaire, un peu d'entraide pour l'instant. Oui, principalement, nous, c'est les amis, les connaissances et les courts-métrages et les clips, les pubs qui commencent à nous, qui sont nos fournisseurs.
On a passé, je dirais, à peu près un an et demi, je sais plus, 2 ans peut-être, je sais plus, à réfléchir à ça, à se retrouver plusieurs fois par semaine et à réfléchir autour de qu'est-ce qu'on voudrait faire, comment on voudrait le faire, c'est quoi en fait une ressourcerie de cinéma aussi, très basiquement, et c'est quoi le milieu du réemploi, c'est quoi l'économie sociale et solidaire. Enfin, on peut s'auto-former en cherchant sur Internet, en discutant avec des gens autour de tout ça. Et on a appris, je pense, beaucoup de choses qu'on, sans trop s'en rendre compte au fur et à mesure. Enfin, on s'est vraiment formé tout seul. Et on s'est rapproché de gens comme La Forêt électrique ou d'autres projets à Toulouse, un peu, des projets un peu autour de tout ça, qui sont un peu autour du cinéma, un peu ambitieux, ou du réemploi, et de comment eux, ils ont existé. Et ils nous ont pas mal conseillé, encouragé. Et ça, c'était chouette et précieux, parce qu'au début, tu pars un peu tout seul, à deux. Et enfin, voilà, le milieu des décorateurs de cinéma toulousains de nos âges, il n'y a pas grand monde. Donc t'es un peu tout seul dans ton coin à faire le truc.
On sait par exemple que sur l'année 2022, on avait fait ce petit truc à l'époque pour se rendre compte de ce qu'on devait représenter en termes de mètres carrés, combien de mètres carrés on devait avoir pour arriver à faire fonctionner notre ressourcerie à l'époque. On avait fait un petit calcul sur 2022, sur les projets uniquement sur lesquels Baptiste et moi avions travaillé à Toulouse. Donc c'est vraiment très 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 restreint sur tout ce qui se fait en cinéma en France. On arrivait à 64 tonnes de déchets créés en une année. Mais genre du déchet quoi, ça part à la benne et c'est bonsoir. Et ensuite on arrive dans notre premier lot de 100 mètres carrés où ici on a donc tout ce qui est mobilier. Donc on a une cinquantaine de chaises, une dizaine de tables, des étagères en veux-tu en voilà, et comme tu peux voir on a beaucoup de trucs de la poste quoi. Du coup c'est des objets, t'as un présentoir, des bandes d'accueil, des étagères de vente et tout qui étaient là et qui étaient restés parce que la poste les ont laissés quoi, hein, en partant, puisque c'était leurs locaux avant. Et donc voilà, il y a des objets qui sont, t'as des tables qui sont juste ultra fonctionnelles et qui sont vraiment... peuvent être utilisés avec des nappes dessus, où en fait on s'en fiche quelle tête elles ont. Et après, on a quelques trucs vraiment de cinéma, tu vois, par exemple, là, la machine à laver, c'est une machine à laver de ciné, dans le sens où on a vidé tout le béton qu'il y a dedans. Donc en fait, elle est super légère à transporter, c'est le bonheur des décorateurs, parce que transporter une vraie machine à laver, si vous avez déjà fait des déménagements, vous savez de quoi je parle. Évidemment, il y a le cinéma parce qu'en plus, on se paye le luxe de mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est pas... Attention à mes mots, évidemment que je pense que la culture est essentielle à tout fonctionnement de toute société et que c'est le cœur même d'absolument toute l'humanité, quelque part. Mais dans l'idée, on n'est pas en première ligne, comme diraient certains personnages politiques. Mais on peut se payer le luxe quand même de mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est pas foncièrement nécessaire. Donc... autant faire ce peu et montrer l'exemple à ce niveau-là, si déjà on n'est pas nécessaire, de prouver qu'en plus on n'est pas impactant dans le sens négatif du terme, et que justement on est même vertueux, essayons de le moins impacter possiblement les écosystèmes et les endroits dans lesquels on va tourner des films. Je veux dire, quand tu vois ce que peuvent faire, certains dégâts que peuvent faire certains films énormes de l'époque, pour de l'art, c'est chaud. C'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument éviter. Nous, à notre échelle, on n'en est pas là. Mais je veux dire, notre impact, il est quand même présent en tant que cinéaste et en tant que décorateur, parce que ce qu'on utilise, nous, c'est peut-être pas effectivement des caméras. On n'en est pas encore à parler de gestion de données, de gestion de trucs numériques qui sont extrêmement polluants. Mais nous, on utilise des objets. On a besoin de trucs qui sont physiques, qui prennent de la place, qui seront encombrants en termes de déchets. Et donc ça, c'est la deuxième pièce qui est plutôt consacrée, elle, aux accessoires. Sachant qu'on a aussi notre zone tampon, donc là, le moment où les objets arrivent et ne sont pas encore répertoriés, on les met là. C'est pour ça que là, tu as un peu ce bordel ici. Mais en vrai, ça commence de plus en plus à ressembler à quelque chose, puisque cette zone tampon, en fait, à la base, c'était toute la pièce, quoi. On avait tout qui était là entassé en mode, il faut l'inventorier. Donc là, c'est vraiment tout ce qui nous reste de ne pas inventorier, c'est plus ou moins ici. Et tout ce que tu vois là, sinon, tout le reste est inventorié, rentré dans nos systèmes. Il a un numéro, un nom, un prix. On sait quand il est sorti, on sait quand il est revenu, pour potentiellement savoir qui l'a abîmé ou qui l'a pas abîmé. On pourrait aussi dire qui l'a acheté à la base. Et pour ce qu'on aimerait beaucoup, en fait, c'est, après quelques années de fonctionnement... prendre, tu sais, presque faire un espèce de world du meilleur, de la meilleure boîte de production qui nous a le plus donné, ou notre plus vieil objet, et ben c'est lui, et il a fait 45 tournages, tu vois, c'est un vétéran des tournages,
Et je pense que ça va être le cas parce que tu vois, je vois des objets là, je suis déjà sûr de l'avoir mis dans 3 ou 4 projets différents. Bah, les plantes là, ça sort tout le temps.
Les plantes en plastique, ouais.
En fait, c'est aussi un des trucs qu'on veut beaucoup mettre en avant, c'est le fait de pas acheter systématiquement des plantes. Parce que les plantes sur un plateau, ça, c'est horrible, ça meurt tout de suite, quoi. Et à terme, on aimerait beaucoup avoir une pépinière de cinéma. Genre une grosse serre avec que des plantes de cinéma, quoi. Donc là, pour le moment, on se contente d'avoir des plantes en plastique, puisqu'on est dans une cave où il n'y a pas un rayon de soleil et on ne peut pas du tout les arroser. Donc pour le moment, on a plein de plantes en plastique, mais c'est un truc qui sort tout le temps.
Mon rapport aux objets, je sais que j'ai un truc très... Ouais, j'aime bien quand ils ont une histoire. Je sais que je suis un peu... Je suis du genre à garder les choses, mais parce que c'est des choses qui ont du sens. C'est des choses... Soit c'est des choses que qu'il faut, parce que bah, y a ce côté un peu utilitaire. Donc j'ai vraiment aussi beaucoup de trucs du genre, j'aime bien avoir un bon couteau, tu vois, j'aime bien avoir une bonne visseuse, j'aime bien avoir ce genre de choses. Ça, c'est certain, je l'ai. Concernant l'assaut, j'ai ce truc-là aussi en disant, ah, ça vient de tel endroit, ça vient de tel endroit, mais tout ce qui est ici, ce qui est justement... génial, c'est que ça n'est pas à moi. Et c'est trop bien. En fait, ils sont que de passage, ici, ces objets. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'on voulait mettre en place un système de location et surtout pas de vente aux productions, parce qu'il y a un côté responsabilisation de « attention, il n'est pas à vous, cet objet non plus, quoi. Vous allez pouvoir l'utiliser pour ce tournage et il va vous être grandement utile pour vous pour ce tournage et il va prendre de l'histoire de ce tournage en fonction de ce que vous en faites, de ce que vous allez en raconter et tout machin. Mais après, il va revenir chez nous et il va repartir et il va continuer d'avoir d'autres histoires. » Et ce qui est super chouette aussi, c'est que dans beaucoup de productions, souvent, c'est des objets particuliers qui ont déjà, eux, en eux-mêmes, une histoire. Donc tu vas te retrouver en tant que décorateur à aller acheter sur le bon coin des vieux objets de vieilles personnes, de maisons en train de se vider, donc qui ont déjà une histoire historique, de familiale ou très personnelle liée à ces personnes-là. Et déjà, tu les sors de cette histoire-là pour leur faire dire une autre grande histoire qui est celle du cinéma. Et dans le cinéma aussi, il y a plein d'autres petites histoires. Et le but de Deuxième Clap, c'est effectivement qu'on ne soit que une zone où, en fait, c'est comme s'ils étaient en sécurité ici, tu vois. C'est, vous inquiétez pas, on vous récupère, vous allez être bien choyé comme il faut, et après, vous allez pouvoir repartir pour pouvoir revenir après en zone safe, en mode, bah, ils vont pas se faire détruire, quoi. Avec, justement, toute l'histoire qu'elle travaille déjà de base.
Mais il y a des trucs un peu cool, genre ça, cette télé là, avec le gros sticker 113 fous la merde, c'est un peu qu'on a trouvé dans une maison, on était un moment, genre c'est trop parfait, et à côté il y avait la PlayStation, donc il y a un peu le truc de genre vraiment décor année 2003, avec le logo Apple, enfin c'est vraiment une caricature, tu...
C'est pas quand elle s'ouvre, mais c'est quand elle se ferme. Le bois là, et... Si ce lieu là, c'est un instrument... Un accordéon ou une harpe, un truc comme ça, où il y a plein de boutons. Et c'est quand même mieux si elles sont toutes là, si toutes les cordes sont là ou si tous les boutons sont là. Et l'accordéon, c'est pas mal parce qu'on brasse pas mal de vent. Ce côté un peu, c'est un peu rude quand même, faut y aller pour pouvoir le jouer, tu vois. C'est pas la même chose d'aller faire un vide maison. Là, dernièrement, on est parti, on est passé faire ça. On avait les clés d'une maison dans laquelle on pouvait tout récupérer. Et c'était un acteur qui nous a appelé, c'était sa mère qui a Alzheimer, qui quittait cette maison. Là, il y avait un peu un truc où les objets sont exceptionnels. Il y a tout un pan de génération, parce que bah, c'était une maison familiale, donc il y avait autant des trucs des années 40 que jusqu'au moment où les petits-enfants sont partis il y a 10 ans. Donc on avait des fauteuils grenouilles des années 40 à une PlayStation 1, tu vois. Donc là, il y a un peu ce truc où tu te sens un peu intrus dans ce truc-là. On n'était pas ultra safe, enfin on sentait pas non plus ultra safe de dire on prend tout, tu vois. Donc on y allait une fois, on a pris ce qui nous semblait nécessaire et le reste on l'a laissé, sachant que eux en plus ils avaient une démarche derrière où ils allaient faire venir Emmaüs et ou machin. Là à ce moment là effectivement on dit non, il faut que ça reste dans la sphère du public, tu vois, parce qu'en fait c'est des particuliers, Emmaüs ils vont le refaire de la vente et de la location à des particuliers. Donc c'est très bien que ces objets continuent à avoir une existence qui est, s'ils sont fonctionnels, qui est de l'existence normale, quoi. Une table va être une table, machin, machin.
Ah, c'est lumière, c'est pas possible.
Nous, c'est juste là, on est dans un travail de en fait, éduquer les gens à c'est quoi une ressourcerie culturelle du cinéma. Et même les prods, ce que disait Thibaut, la prod qui voulait pas me filer 100 balles pour adhérer à notre asso, pour qu'on récupère les trucs et pour nous soutenir, alors que c'était un long métrage annexe 3, donc avec quand même un peu de thunes. C'est les films qui sont en dessous de 3 millions, mais au-dessus d'un million, je crois, à peu près. 100 balles, c'est un plein. Ils en font, je pense, une cinquantaine par semaine. Et voilà, bref, ils n'ont pas voulu. Enfin, c'est une dépense qu'il faut prendre en compte, même si, et c'est minime, tu vois, ce soit un petit pourcentage du budget de déco. Parce que la déco dans les films, ça a vraiment son budget à part. Le chef déco a une enveloppe de budget et il embauche les gens avec ça, il paye le matos, tout ça, tout ça. Donc qu'il y ait une part là-dedans, qu'il y ait 1% là-dedans, que ça soit pour gérer du réemploi, ça me paraît pas zinzin, c'est juste que en fait, il faut faire presque du lobbying, en fait.
Pourquoi il faut éduquer ces gens ? Parce que, pour moi, c'est un acte politique. Parce que c'est des gens qui sont souvent... les personnes qui ont le plus ce genre de fonctionnement, c'est les commerciaux et les communicants de sociétés de production qui font de la pub. Eux, leur logique, elle est mercantile derrière. Elle est... on est payé par une marque. Typiquement, la pire expérience qu'on ait pu jamais avoir, c'était Nike. Nike sort un nouveau t-shirt avec Toulouse. Eux, leur logique, elle est purement mercantile derrière. C'est on a fabriqué tant et tant de milliards de t-shirts, il faut en écouler tant et tant, on a un budget de 3 millions d'euros pour faire une pub, il faut que cette pub elle sorte à telle heure, à telle date, à tel machin. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de savoir qu'est-ce qu'il est arrivé de la table que t'as utilisée dans le plan 27E de la séquence de promotion de ce truc-là ? Ça ne les intéresse pas. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Je veux dire, on s'en rend bien compte, nous. Enfin, personnellement, j'en fais pas mal, des pubs. Quand tu sais que tu travailles pour des multimillionnaires et des sociétés qui brassent des millions à l'année et que toi, tu dois aller négocier pour te mettre une mise à disposition de matériel et qui te crache à la gueule parce que tu demandes un jour de préparation payée, c'est terrible. Donc, pourquoi ils font ça, eux ? Parce que ça ne représente dans leurs yeux à eux que de l'argent. En fait, il n'y a que cette logique-là qui est applicable. Et des fois, c'est au détriment de leur propre argent. C'est ça qui est terrible. C'est clairement... Mais après, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est le capitalisme débridé où la seule logique est mercantile et on ne réfléchit pas, même pas à moyen terme, le long terme, j'en parle même pas, mais c'est à très, 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 très court terme de qu'est-ce que je peux faire comme économie maintenant. Et c'est le maintenant qui compte. Alors qu'en vrai, nous, on pense à bien plus tard, quoi. Donc c'est une question de réflexion sur le temps lui-même, en fait, et de comment tu utilises ton temps et qu'est-ce que ça représente pour toi, ce temps. Et notre temps à nous, il est... le temps de cette association, c'est le temps de justement temporiser, quoi. De prendre ce temps-là. De se dire, non, on va prendre le temps de le réparer, on va prendre le temps de le stocker, on va prendre le temps de l'inventorier et de se demander d'où il vient, combien il pèse, en quoi il est fait, et combien est-ce que, finalement, on est quand même encore dans ce système-là, mais de combien est-ce qu'il peut coûter, prendre ce temps-là, et eux, c'est pas ça, c'est non, oui, tout de suite, là, quelle heure, pourquoi, et donc forcément, t'as pas le temps de te dire... ah ouais, je pourrais peut-être payer cette petite association un peu plus parce que ils racontent une belle histoire avec des beaux objets et parce que ils prennent le temps d'aller voir d'autres productions pour récupérer des objets. Non, c'est du tout de suite maintenant, quoi. Il y a pas mal de choses que j'ai ramenées de chez moi, enfin littéralement, parce que du coup moi je suis pas du tout de Toulouse et que j'habite un peu loin, enfin je viens d'un peu loin, et ben à l'époque quand j'ai commencé à faire des trucs à Toulouse et que j'ai eu mon camion, j'allais chez mon grand-père pour récupérer des choses dont j'avais besoin dans mes films, donc il y a certaines choses ici qui sont des choses qui sont dans la famille à moi depuis longtemps, et qui sont même à mon grand-père et ma grand-mère, et alors est-ce que j'en ai ici? J'ai pas de meubles, mais ça va être plutôt à côté. La petite lampe que tu vois là-bas, c'était la lampe que ma grand-mère avait sur son bureau où elle avait sa machine à coudre. Ça, c'est le gobelet. C'est le gobelet qu'on avait chacun en maternelle, où il y avait notre nom dessus, et c'est notre gobelet pour mettre l'eau de la peinture. Là, pour le moment, tu vois, on n'est pas plein. Vraiment. Mais ça peut le devenir très très vite. En fait, on est sur une... vu que c'est notre première année de fonctionnement, on n'a pas encore toutes les clés.
logistique et toutes les clés de compréhension de comment gérer ce lieu. Mais en même temps, on sait que c'est pas assez. Parce qu'il y a ce côté où c'est déjà quasiment plein, mais en même temps, on aimerait faire tellement plus. Mais en même temps, on n'est pas assez, enfin, on n'est pas assez présent et on n'est pas assez... On n'est pas là tous les jours à déplacer des meubles, en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais en fait, on n'a pas le temps, on est à côté intermittent, il faut qu'on travaille, il faut qu'on bouffe, quoi. Et vu qu'on n'est pas payé avec cet asso, qu'on ne peut pas se payer encore avec cet asso, on ne peut pas se permettre non plus de passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures ici à juste déplacer des meubles pour optimiser, optimiser, optimiser. Bien sûr que si on optimisait, on pourrait se dire qu'on pourrait durer un peu plus longtemps et accueillir un peu plus de taille de tournage. Mais en même temps, aussi avoir plus grand, ça implique un plus grand loyer, ce qu'on ne peut pas se permettre non plus. Enfin, voilà, on est encore dans une phase d'adaptation et de compréhension de quels sont vraiment nos besoins. Pour le moment, 200 mètres carrés, c'est très bien pour se lancer, même si à terme, on sait que ce ne sera pas du tout suffisant. Mais pour le moment, c'est un peu petit, mais en même temps, on s'en sort très bien.
On est là, pas en août, mais le reste du temps. Venez nous voir, on a besoin de mains et on a besoin de projets. N'hésitez pas, si vous avez envie de créer... Parce qu'on n'est pas borné non plus au cinéma-cinéma. Si vous avez envie de créer des choses et que vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin de meubles, que vous avez besoin d'accessoires, que vous avez besoin de peinture, de pinceaux, ou quoi que ce soit, ou même de juste venir voir par curiosité, n'hésitez pas. On est des gens chouettes, je crois.
Vous venez d'écouter Deuxième Clap, réinventer le destin des décors de cinéma. Une création sonore de Mathias Guilbault, réalisée pendant le mois d'août 2025. Encore merci à Thibaut et Baptiste pour leur accueil et leur temps.
C'était Parlons Nature, une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.